Merci pour les commentaires et les questions. Je vais essayer de répondre aux dernières questions, les embêtant, la question des milieux associatifs, de la distinction homme-femme. Alors, moi, évidemment, dans mon enquête, j'ai eu moins accès aux sociabilités féminines, de mon statut d'enquêteur homme. Mais ce qui était assez frappant, quand même, qui explique effectivement peut-être les différences de trajectoire de conversion que j'ai observées, qui étaient principalement masculines, c'était d'abord des différences effectivement scolaires. Donc, ça regroupe des résultats sociologiques qui ont aussi que les filles réussissent souvent mieux à l'école que les hommes. J'ai eu beaucoup plus de cas de trajectoire de jeunes hommes déscolarisés que de jeunes femmes déscolarisées. Donc, il y avait cette différence principale. Il y avait aussi pour les générations un peu plus âgées, donc toujours vingtenaires, trentenaires et quarantenaires, une vie associative, là encore pour les femmes, beaucoup plus riche, et du coup des associations locales, de quartier, etc., qui étaient multiconfessionnelles, alors que les hommes n'étaient pas aussi intégrés dans des milieux associatifs, et du coup la multiconfessionnalité était moins présente dans les univers quotidiens des hommes. Donc ce serait ça un peu les deux principales distinctions entre hommes et femmes. Après, il y a quand même eu des cas donc de conversion féminine. J'ai eu, mais là du coup en sens inverse, j'ai eu deux cas en fait de conversion de l'islam au catholicisme. C'était une femme d'origine alpoulard dont le père est alpoulard, la mère est mandjak catholique. Et quand la mère est décédée, en fait, elle a voulu se rapprocher donc de sa mère défunte en se convertissant au catholicisme. Et toutes ses sœurs étaient au courant, ses sœurs qui sont musulmanes. Mais elle n'a jamais dit à son père. Donc il y a une trajectoire comme ça de conversion un peu privée, mais là, privée au sens de quasiment secrète, en fait, qui existe, qui sont peu médiatisées, mais on le constate quand même. Et dans le cas du Sénégal aussi, donc pas que dans le pays d'arrivée en France, au Sénégal, on a aussi de nombreux cas, en fait, de conversion comme ça, féminines, qui sont assez peu évoquées. Donc on pourrait rester bref sur ces deux questions.
Très bien. Alors, effectivement, ça va.
Oui. Donc peut-être pour reprendre un petit peu dans l'ordre de tes questions, Béatrice, oui, ça m'a intéressé ce que tu disais sur sécularisation et genre, et bien entendu, il ne s'agit pas effectivement de mettre l'accent sur une opposition un peu schématique entre ceux qui sortent et ceux qui restent, voilà, puisque en l'occurrence, moi, mon enquête montrait plutôt qu'elle restait, voilà. Moi, de manière générale, quand je procède à des analyses, ce qui m'intéresse, c'est aussi les cas déviants, parce que, un peu par effet de miroir inversé, ils donnent à voir beaucoup de choses sur les cas majoritaires. C'est comme quand on s'intéresse à la réussite scolaire, aux trajectoires de réussite scolaire. Ce qui nous en apprend beaucoup, c'est aussi d'aller regarder les cas déviants. C'est plus dans cette idée-là. Par rapport à ça, oui, donc j'étais intéressée à ce que tu disais sur la division sexuée du travail de transmission religieuse. J'ai du mal à répondre maintenant à cette question-là, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup des configurations familiales. Et notamment, je pense à certaines familles dans lesquelles j'ai enquêté où c'est le père qui a le bagage religieux. Et donc là, du coup, il va avoir dans la famille une socialisation religieuse qui ressemble un peu plus à ce que les filles reçoivent dans les chiounis, en fait. Hein. Alors que dans d'autres cas, c'est pas du tout ça. Et c'est vraiment l'éducation, le rapport un peu plus savant à l'islam qui est développé dans les chiounis, alors que dans les familles, c'est plus les routines. Les familles prient ensemble, mais il n'y a pas forcément d'explications ou de rapport un peu en termes d'apprentissage. Mais dans d'autres cas, finalement, le père n'est pas présent, c'est la mère qui compte. Donc je dirais que ça dépend plus en fait des configurations familiales que de... Voilà, mais il faudrait que je systématise un peu plus ça.
Sur la diversité interne de celles qui restent.
Oui, bien sûr. Et du coup, pour continuer là-dessus, la diversité, elle est aussi liée aux sociabilités. J'en ai pas trop parlé entre pères. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé beaucoup sur des jeunes filles qui ont grandi dans certains quartiers où les populations musulmanes sont majoritaires et même parfois où les populations comoriennes sont très très présentes. Et donc, elles ont beaucoup, en termes de relations avec des jeunes femmes, des jeunes filles musulmanes, etc. Et donc, dans les trajectoires de voilement, par exemple, ça compte beaucoup, puisqu'elles vont échanger sur le fait qu'elles vont porter le voile ou non. Enfin, ça donne lieu à des discussions entre filles. Voilà, d'où mon intérêt pour le fait de continuer dans des contextes un peu différents. Donc j'ai été contente de voir qu'il y avait une communication qui avait porté sur la ville de Rennes, puisque j'habite à Rennes, donc moi qui m'intéresse au Comorien, je vais pouvoir aller continuer sur d'autres terrains, mais voilà.
Très bien.
Merci pour cette question. Pour revenir sur la question de la méthodologie, c'est vrai que je l'ai un petit peu expédié en utilisant le terme d'ethnographie, mais c'est vrai que... ma principale méthodologie, là j'arrive avec la confiance nouée avec pas mal d'enquêtés, de réaliser des entretiens enregistrés, non directifs, assez longs. Mais ça a été un processus assez progressif en fait, parce qu'il y a plusieurs résidents qui sont dans des situations même légales compliquées. Donc la réalisation de l'entretien enregistré ne fait que commencer. Mais sinon, l'entrée sur le terrain était quand même par une observation des espaces assez longue, donc de tous les espaces, qu'effectivement, j'ai pas eu le temps d'aborder trop dans cette communication orale, qui vont être les espaces collectifs, les intermédiaires, donc pour les couloirs, les entrées, et le logement individuel dans lequel je réalise mes entretiens ou même des conversations plutôt informelles. Donc c'est vraiment mon travail quasi exclusif de terrain va être à l'intérieur de cette résidence. Sur les questions des espaces emboîtés de la pratique ou ceux qui sortent et ceux qui restent, oui, un peu comme ce qui vient d'être dit, c'est vraiment s'intéresser aux cas qui vont refuser l'inclusion, qui vont refuser la participation pour essayer de voir, parce que finalement quand on essaie de... Les réponses aux questions des gens qui participent ou qui font avec sont en général moins... disent moins, parce que ça semble tomber sous le sens. Donc finalement, passer par le discours de celui qui ne veut pas ou celui qui ne participe pas arrive à faire souligner pas mal de choses. Donc effectivement, j'ai pas encore ni les connaissances ni le temps de recul, voir pour si c'est vraiment des différences confessionnelles, c'est des différences de pratique. Je pense que des fois, il y a aussi simplement des tensions d'inimitié qui sont en général assez symptomatiques aussi, des relations de voisinage à l'intérieur d'un même espace qui est quand même assez petit pour pas mal de résidents. Donc des fois, là, ce que je disais par rapport à ce résident qui refuse d'aller prier en bas, je pense qu'il y a aussi une question d'entente, en fait, avec les personnes plus âgées qui tiennent cet espace de prière. Je pense que c'est, au-delà des relations confessionnelles, je pense qu'il y a aussi une question de tension intergénérationnelle ou de tension de domination au-delà de la question religieuse. Je ne sais pas si je réponds à cette question. Et sinon, il y a aussi, je pense qu'il y a des questions que je n'ai pas pu aborder, mais quelqu'un qui refusait vraiment en disant... moi, quand je suis au pays, je vais prier à la mosquée parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai construite. Ici, c'est pas moi qui l'ai construite, donc je n'y vais pas. Donc là, il y a aussi une question d'investissement et émotionnel et de charge mentale et éventuellement confessionnelle de rapport avec cette mosquée. Et lui qui dit, bah non, mais du coup, je prie chez moi. Ici, je veux pas déranger. Ici, je suis pas dans les... Et aussi ce refus d'être dans la pratique collective. Et sur la division sexuée, c'est vrai que je l'ai du coup complètement occulté de ma présentation, mais on est quand même sur des publics quasi exclusivement masculin, la présence féminine dans les résidences commence à arriver par cette restructuration. Elle est extrêmement minime et c'est en général des gens qui ne font pas partie des activités collectives. J'ai juste eu le cas d'une grand-mère malienne qui est arrivée sur le sol français pour des questions, pardon, je vais finir rapidement, pour des raisons de santé et qui, elle, va prier le soir avec d'autres personnes, mais c'est très très marginal. Donc je
ne
l'ai pas du
tout
demandé.
Personne.
Concernant la diversité interne, moi je pense pour les familles, les maghis, c'est un moment de fête indéniable. Surtout moi je me suis beaucoup intéressé au cadre des associations et aux fondis.
Hassan, plus fort.
Par contre, pour les fondis et les fondateurs les maîtres, hein, et dans le cadre de l'association, c'est une dimension religieuse et voire politique. Et puis pour la division des rôles, hein, les femmes, moi, dans la préparation au majlis, les femmes sont, c'est les femmes qui préparent les garçons au niveau de la mémorisation. Ce sont les femmes qui le font. Et puis pour l'école coranique, moi je pense ici, l'école coranique dans la médiation a un rôle très important. La personne qui a ouvert cette école coranique, c'est un étudiant qui était à Rennes, qui vient d'une famille à Mayotte, mais après il était étudiant, on l'invitait pour aller faire des shijab, des invocations dans les familles. Et c'est là où il s'est rendu compte que les familles étaient attachées au shijab et que les enfants n'avaient pas connaissance. Ils leur demandaient de lire la fatiha. La fatiha, mais ils n'arrivaient pas à lire. C'est là où il a ouvert l'école coranique. Et tous les Maoris envoient leurs enfants, mais bon, les familles n'ont pas beaucoup de connaissances non plus dans le domaine religieux, donc l'école coranique est un jour vraiment très 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 important.
Des questions de la salle?
D'accord.